BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs aujourd'hui, Benaouda Abdedaïm avec sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire, qui nous fera, elle, revivre la grande histoire des villes. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, Librairie de l'écho sur X, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, pour avoir les extraits des émissions, les rediffusions des émissions, pour avoir toutes les références des livres dont on parle. Et tout de suite, place aux auteurs. Alors je vous le dis tout de suite, ce sera la librairie de l'écho la plus feel good de l'année, puisque nous vous proposons une émission pour exacerber nos sens, nos sensations, nos sentiments, pour nous fabriquer un monde plus agréable à vivre, plus bienveillant, mais aussi plus performant et plus riche de sens. Alors comment ? Eh bien, on va explorer deux voies. La première, c'est celle de la musique et du son. Nous entrons dans le siècle du son. C'est votre thèse, Michael Blumendiel. Vous êtes fondateur de l'agence Sixième Son. Vous êtes, il faut le dire, le compositeur le plus écouté au monde. Il y a 2 milliards de personnes qui entendent vos compositions chaque jour sur la planète, c'est bien ça ?
Exactement.
Voilà. Vous êtes créateur d'identité sonore pour plus de 400 marques dans le monde et vous publiez donc Le siècle du son aux éditions Débat Public. Et puis, la deuxième voie vers ce monde meilleur, c'est celle de l'empathie qui va être désormais enseignée à l'école en France, enseignement qui existe déjà au Danemark. Et vous n'êtes pas pour rien dans cet enseignement de l'empathie en France, Maline Ridal. Vous avez pratiqué, vous, la communication à très haut niveau dans des grandes entreprises, et puis vous avez décidé de bifurquer. Alors vous aviez fait un livre qui avait fait sensation, vous aviez été notre invité, Le bonheur d'être danois, où on apprenait tous les secrets de la cohésion danoise. Vous êtes aussi enseignante à Sciences Po et là, vous publiez L'Empathie. Ça s'apprend aux presses de la Cité. On commence avec vous, Maline. Déjà, l'empathie, comment on peut la définir ? C'est quoi ?
Alors, l'empathie, il y a plusieurs sortes d'empathie. Donc, on parle de l'empathie émotionnelle, qui est la capacité de comprendre l'émotion de l'autre. Il y a l'empathie cognitive, qui est celui qui est de comprendre les idées des autres. Et puis, il y a la troisième forme, qui est une forme de l'empathie sociale, où on comprend un peu le dynamique dans un groupe. Donc, c'est une intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre, soit l'émotion, les idées, ou un contexte social. Alors, de manière populaire, on dit souvent, c'est de se mettre à la place de l'autre, ce que je conteste un peu dans le livre, parce que quand on se met à la place de l'autre, on se met justement à la place de l'autre et on n'est pas l'autre. Donc, ça peut amener à certaines incompréhensions.
Alors, il y a une réflexion que vous entendez quand même tout le temps, c'est l'empathie, c'est quand même un truc de bisounours, ça sert à rien. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds tout simplement que c'est un outil d'apaisement et c'est un outil de compréhension et de vivre ensemble. Et notamment, quand on regarde dans les entreprises, après je vais parler de l'harcèlement à l'école, c'est que dans l'entreprise, on a 85% des gens qui disent gérer régulièrement des conflits. Ouais. 36% ils disent de manière très 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 fréquente ou constante. Et donc l'empathie, de donner le sentiment à l'autre d'être vu, compris et accepté, donne aussi ce qu'on appelle la sécurité psychologique pour que les gens osent poser une question, émettre une idée, avouer une erreur. Et c'est extrêmement important pour la performance dans l'entreprise. Et puis à l'école, évidemment, ouais, c'est un outil de réduction d'harcèlement à l'école, de créer de la compréhension, de l'acceptation des uns et des autres.
Justement, parce que je n'avais pas mesuré à quel point les possibilités de mal se comprendre étaient énormes. Vous citez cette phrase de Bernard Werber dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez vraiment, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Ah ben ça c'est sûr, et on le voit, on voit les radicalités. Et au fond, j'ai écrit ce livre pour soutenir le projet de cours d'empathie à l'école, qui a été du coup, pour le coup, déployé en France maintenant. Mais je l'écris aussi parce que j'ai constaté quand même cette radicalité qui s'accentue partout. On est pour ou on est contre. Et on manque cruellement de la nuance.
Mais pourquoi en France, on a ce déficit d'empathie ?
Notamment parce que nous sommes issus d'un pays élitiste.
Ouais.
Et donc l'élitisme, on est jugé très tôt, 7-8 ans, on est classé, on se compare. L'élitisme fait souvent, ça peut, il n'y a pas un accent mis sur le développement de l'intelligence émotionnelle, beaucoup sur l'intelligence.
Vous dites que l'école française, c'est la compétition, ce n'est pas la coopération.
Il y a une forme d'individualisme qui se voit en France, notamment dans les votes et dans le comportement. Après, je pense que cette cohésion que l'empathie peut créer, notamment à l'école pour commencer, mais aussi ce qu'on voit et ce que moi je fais dans les entreprises, est précieux pour le fait de fonctionner ensemble et réduire les conflits et les tensions aussi dans la société.
Alors ça marche parce que vous citez des enquêtes, par exemple, il y a 91% des élèves danois qui déclarent être en situation de bien-être général.
Oui, et 95% qui disent se sentir acceptés comme ils sont. Et donc, c'est une bonne base. Le but des cours d'empathie, quand ça a été lancé au Danemark, on appelait ça l'heure de la classe, donc de pouvoir exprimer une émotion, de comprendre celle des autres, c'est de faire équipe, c'est de faire communauté, c'est de pouvoir vivre ensemble malgré nos différences. Et l'empathie, moi je le trouve, alors le côté bisounours, c'est parce qu'on l'associe souvent à une forme de chaleur humaine, mais en fait l'empathie est surtout un outil intéressant quand on n'aime pas l'autre. Parce que c'est là où on va accentuer les conflits, la radicalité, même jusqu'à, enfin un conflit, mais jusqu'à une haine qu'on peut constater dans la société. Et avec de l'empathie, c'est un vrai outil de voir, comprendre et accepter. Toute autre réaction, dans ce cas, radicalise encore plus l'autre, va accentuer les conflits et les comportements non désirés.
Dans l'entreprise, puisque vous avez longtemps travaillé dans des grandes multinationales, vous avez vu les bienfaits aussi de cette approche, ça se traduit comment ?
Ça se traduit notamment par une meilleure performance, ça se traduit par une meilleure agilité, et le fait, à nouveau, je reviens sur ce phénomène de sécurité psychologique qui est que les gens osent poser une question, émettre une idée et avouer une erreur. Donc évidemment, ça crée une cohésion, une fluidité, ça réduit les non-dits, ça réduit les conflits, et donc ça fait la charge mentale. On dit 40% du temps d'un manager est occupé par les malentendus et les conflits. 40%. Et donc, on peut même à nouveau le rapporter à l'école. Si l'enfant a la tête pleine de peur d'être harcelé dans la cour ou d'être jugé par un système ou par une note, etc., mais la capacité d'apprendre n'est pas aussi grande. C'est le même effet que nous avons dans l'entreprise. Ça libère le talent, l'énergie et la performance d'une entreprise.
Mais alors, il y a une critique qui est souvent formulée et que vous... reprenez dans le livre, d'ailleurs, pour la contester, c'est cette idée que, ben, finalement, est-ce que l'empathie, c'est pas trop privilégier le présent sur le futur, et est-ce que ça n'est pas non plus trop privilégier le cas unique au détriment de l'intérêt général ?
Oui, c'est les. J'en parle parce qu'il y a évidemment des arguments contre l'empathie, qui sera de dire que on a plus d'empathie avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, on peut privilégier dans l'élan de l'empathie une personne au détriment de plusieurs personnes qui peuvent avoir plus besoin d'une aide, par exemple. Donc, ça peut, il peut avoir quelques biais cognitifs par rapport à ses choix. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, le développer a plus d'avantages que des désavantages et des risques. On parle aussi de la manipulation. En fait, quand on comprend l'autre, on peut aussi le manipuler par cette compréhension. Si je vous ai vu, je vous ai compris, je vais savoir peut-être mieux comment vous manipuler. C'est un autre argument, entre guillemets, contre. Mais de manière globale, les résultats sur l'empathie, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société de manière générale, sont quand même largement positifs.
Ce qu'on pourrait objecter aussi, Maline Ridal, c'est que le petit Danois, quand il rentre chez lui, il baigne aussi, sans doute, dans un environnement où cette culture de l'empathie est développée. Le petit Français, lui, quand il va rentrer dans sa famille avec son cours à l'école, Est-ce qu'il va réussir à peut-être influencer sa famille? Ça va être compliqué pour lui quand même.
C'est un long chemin, mais c'est un bon début. Et bien sûr, on ne va pas y arriver du premier coup, mais je dis souvent, ces 50% retiennent 50%, on est déjà mieux dans la société. Le fait de savoir identifier une émotion, savoir comment le réguler, savoir comment le communiquer derrière, si on ne sait pas l'identifier, si on ne sait pas le réguler, si on ne sait pas le communiquer, ça devient de la colère, de la violence, par la non-compréhension de ses propres émotions. Et donc, le fait de comprendre, de dire « je suis le contrôle, je n'ai pas le contrôle », comment je gère cette émotion ? Là, je parle à l'école, hein, mais je parle aussi des adultes. Il y a des adultes qui ne savent pas. Et donc, le fait d'avoir cette régulation, à nouveau, je reviens sur ce mot de la nuance, ce recul, de ne pas agir à chaud et vouloir absolument avoir raison dans tous nos points de vue. D'avoir une petite ouverture, d'avoir... c'est une petite douceur, mais ça ne va pas être compris par tout le monde. Mais c'est-à-dire cette ouverture qui permet le dialogue. Et qu'on peut avoir une position pour quelque chose, mais tolérer qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Et c'est cette tolérance-là qui crée une vraie communauté, qui crée une vraie société avec une richesse. Le fait de s'engager, il y a une grande différence entre s'engager pour quelque chose ou être très occupé à s'engager contre. Le contre, en réalité, renforce ce qu'on n'en aime pas. Pas le mécanisme de quand quelqu'un...
Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que entre le moment où vous avez voulu défendre ces idées, l'accueil que vous avez reçu au départ en France, à l'école, etc., est-ce que vous avez vu le changement d'état d'esprit en peu de temps, finalement?
Alors, moi, c'est au moment où j'ai pris la double nationalité, quand j'ai pris le passeport français, j'ai décidé de m'engager dans l'éducation. Donc, je me suis dit, on ne prend pas un passeport pour en avoir deux, on le prend évidemment pour s'engager dans le pays. Et j'ai eu quand même, dans les ministères avant Gabriel Attal, des non-réponses. J'ai pas été particulièrement ni entendu ni reçu. Et donc, ce changement-là, il ressent. Avec Gabriel Attal qui a voulu
alors, lancer ce projet en France. L'empathie va adoucir nos mœurs. Michael Boumendil, vous qui savez tout des effets de la musique sur notre psychologie, la musique, le son, ça rend notre vie plus vivable, plus agréable?
D'abord, la musique, elle permet de réunir des gens qui croient qu'ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Regardez, quand vous allez à un concert, votre voisin, il n'a peut-être pas la même opinion politique, il n'a peut-être pas la même origine, il n'a peut-être pas les mêmes convictions, la même façon d'aimer, et pourtant vous allez vibrer à l'unisson. La musique et peut-être le sport sont deux rares sphères de nos vies où on peut encore se rencontrer, se mélanger, même si on ne se connaît pas.
Mais alors ce 21e siècle, ça va être beaucoup plus que ça. Michael Boumendil, c'est ce que vous expliquez en disant le 21e siècle présente une combinaison inédite de facteurs qui donnent au son et à la musique une puissance qui sera plus forte que celle des mots et des images.
Oui, alors il y a des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Si je commençais par le négatif, je dirais que la force des mots en a pris un coup ces dernières années. D'abord parce que dans le domaine de la communication des marques, comme dans la communication politique, il y a des mots qu'on a beaucoup galvaudés et qui aujourd'hui sonnent creux. Ils ne devraient pas, mais ils sonnent creux. Sous l'angle toujours du mot, le mot n'est pas universel. Là, on se parle en français. Moi, la moitié des audiences, vous citiez le fait qu'on a au moins
2 milliards de personnes par jour qui vous entendent.
La plupart ne parlent pas français, mais intrinsèquement, ils parlent le langage du son et de la musique. Donc le mot n'est pas universel, n'est pas aussi puissant. L'image, on l'a beaucoup manipulée. Elle aussi, on l'a galvaudée et on lui a fait perdre une bonne part de sa crédibilité. Sans compter qu'on est au début de la production d'images à une intelligence artificielle qui elle-même va faire douter de la sincérité et de la véracité de l'image.
Oui, mais
on
n'a
pas ce problème au son.
Pourquoi ? Parce que en quoi le son est-il plus vrai ? En quoi le son ne nous berce-t-il pas d'illusions ou ne nous induit pas en erreur comme des images trafiquées?
Alors ça nous amène à la première partie de votre question. Quels sont ces phénomènes uniques qui se rencontrent aujourd'hui? D'abord, on est tous, en tant qu'humains, déjà formés au son par le simple fait qu'on ait passé un certain temps dans le ventre de nos mères. Et c'est une expérience très sonore. Ouais. On est éduqué au son à partir de ce moment-là. Et l'éducation au son, pour une bonne part, elle est universelle. Le bruit d'un verre qui tombe, le bruit d'un oiseau, le bruit d'un cœur qui bat, tout ça, c'est universel. Ce qui vient compléter cette formation et qui devient aujourd'hui universel, et c'est ça qui est assez nouveau, c'est ce que la technologie nous permet. Faisons court. Il y a 100 ans, la musique, c'était un divertissement bourgeois. L'accès à la musique n'était pas permanent. Il était cher, il était donc réservé à un certain type de population. Je pourrais faire long là-dessus. Aujourd'hui, l'accès à la musique, c'est permanent, c'est gratuit ou quasi gratuit, et ça s'adresse à tous. Les différences qui existaient entre les riches, les pauvres, les urbains, les ruraux, cette différence a fini d'exister. Moralité, si vous savez utiliser le son et la musique, si vous savez à quoi ça sert et comment en faire un levier de, presque un levier de pouvoir, alors votre capacité à parler aux gens et aussi à les influencer, ben celle qui arrive dans ce siècle du son est absolument unique.
Alors, il faut rappeler, hein, vous êtes créateur d'identité sonore. Donc, quand les plus de 400 entreprises, hein, dont toutes les boîtes, enfin beaucoup de boîtes du CAC 40, etc., et dans le monde entier, qu'est-ce qu'on vous demande quand on vous contacte
Alors, on m'a demandé des choses, mais aujourd'hui, ce qu'on me demande, c'est en fait comment utiliser le pouvoir du son pour être plus proche de ceux à qui je veux m'adresser et finalement remporter plus de succès. La façon dont on s'habille, on le sait bien, influence la perception que les autres peuvent avoir de soi.
Ouais.
Bah, la façon dont on s'habille d'un point de vue sonore a un impact de plus en plus fort sur deux, trois choses très simples. La capacité qu'on a à comprendre les marques, la capacité qu'on a à les aimer, la capacité qu'on a à les préférer. Or, une des bases du défi économique, c'est d'être préféré. Donc voilà à quoi doit servir le son.
Donc vous dites, un des avantages compétitifs aujourd'hui d'entreprise, c'est vraiment d'avoir une identité sonore que tout le monde va reconnaître. Vous avez des exemples à nous citer comme ça ?
Alors, on peut prendre des exemples. Nous, on a effectivement presque l'essentiel de notre activité en dehors des frontières françaises. Nous, on mesure, par exemple, on s'occupe d'une grande marque américaine qui s'appelle Merrell, qui est une sorte de spécialiste du sport, des vêtements sport, des chaussures de sport. On a juste mesuré qu'un film fait avec notre approche et un film tel qu'il l'avait avant, sur la perception de la marque et sur la capacité à créer de la préférence, la valeur qu'on a créée est absolument phénoménale. Pourquoi ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, les jeunes... Dans beaucoup de pays, la Gen Z ne veut pas lire. Deuxièmement, elle se forme comment ? D'ailleurs, elle s'informe comment ? De plus en plus, par exemple, sur TikTok. TikTok, c'est un média dont l'empreinte principale est le son. Si vous pensez qu'en expliquant avec des mots, ou avec des sous-titres, ou avec des images, vous allez laisser une empreinte forte sur TikTok, vous vous trompez. L'empreinte, ce avec quoi les gens repartent sur TikTok, c'est du son. Alors, deux possibilités. Soit vous prenez des musiques existantes, des musiques de stock, que tout le monde retient, mais les gens vont partir avec ça, soit vous bâtissez votre propre vocabulaire, et quand ils partent avec ce son, ils partent aussi avec ce que vous êtes.
Vous avez créé les sons de la Coupe du Monde de rugby, notamment.
Ouais.
Vous avez créé les sons de la SNCF.
Oui.
Donc, par exemple, c'est quoi les sons de la SNCF ?
Vous le chantez ou je le chante ?
Le tout, 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 tout. C'est vous.
Bravo,
ça ?
Absolument.
C'est vrai que moi, je l'adore.
Bon.
Ouais, mais c'est une invitation. Non, mais là, vous avez raison, c'est que c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que quand on entend ça, c'est une invitation au voyage.
Alors, deuxième chose. Oui. C'est la première chose, vous avez raison. Mais la deuxième chose, ça dit à quel point la SNCF est une entreprise différente. À quoi il ressemble ce son ? Quand on fait des études, les gens disent qu'il ressemble à la SNCF. Il a une unicité. Pourquoi est-ce qu'une entreprise. Ici, on est dans un lieu où on parle économie. Un des grands défis de l'existence d'une marque. Dans l'économie, c'est d'être perçu comme étant unique. C'est d'exister. Un entrepreneur, souvent, une des premières choses qu'il va faire, c'est donner un nom à sa marque et lui donner un logo. Aujourd'hui, on peut montrer qu'une identité sonore peut aller bien plus loin parce qu'elle a cet engagement émotionnel dont vous parliez tout à l'heure, qui a une capacité d'influence sur les gens terriblement performante si vous faites bien les choses.
Et comment vous, après, vous digérez tout ça et comment vous créez ? C'est quoi vos secrets de fabrication, en fait ?
Le vrai secret,
vous travaillez comment
Le vrai secret de fabrication, c'est ne pas se tromper de sujet. Le sujet, ça n'est pas de faire une musique qui soit belle, qui soit agréable. Le sujet, c'est de faire, allez, permettez-moi, six choses. La première chose, de faire quelque chose de suffisamment unique pour qu'elle aide à bâtir la notoriété de la marque. Que cette notoriété soit suffisamment spécifique pour créer de l'attribution. C'est-à-dire que non seulement on vous connaisse, mais on vous reconnaisse. La troisième chose, c'est dans un monde concurrentiel, faire de la clarté. Le jingle de la SNCF, et je suis content que vous l'adoriez, il dit de la SNCF des choses très simples. La SNCF, c'est simple, il y a une dimension humaine, c'est fluide, c'est pour tous. La quatrième chose, c'est de permettre d'avoir de l'attention. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on n'a pas d'attention et on n'a notamment pas de temps à donner aux marques. Si une marque n'a pas l'attention de ses publics, elle ne peut pas exister. Quand elle fait une communication, si personne ne regarde la pub, elle ne sert à rien. Le son, c'est un facteur d'attention. Et puis, le dernier point, on peut prouver sans grande difficulté que si votre identité sonore est bien pensée et bien faite, elle génère de l'engagement, donc de la préférence. Le secret de Sixième Son, mon secret à moi, c'est de ne pas me tromper de sujet. C'est d'avoir de l'avance dans la vision de ce qu'est la marque et ce, finalement, pourquoi elle doit être aimée. On rend ça clair à travers le son et la musique.
Mais quand vous présentez vos créations à vos clients, vous arrivez avec trois propositions.
On s'est occupé de McKinsey, qui est le plus grand, qui est un des plus grands.
Il y a une musique McKinsey.
Voilà. Et on pourra en faire, on pourra en parler. Mais on n'a présenté qu'un seul projet. Ils nous ont présenté leur stratégie de marque. On l'a trouvée très claire. On leur a dit, il n'y a pas besoin de travailler sur des alternatives. On leur a dit, voilà, c'est ça. Et à leur grande surprise, ils nous ont dit, c'est bizarre ce que vous avez fait, mais c'est nous. Quand un client vous dit que c'est bizarre, vous avez le début de la vérité. Parce que si ça n'est pas bizarre, ça n'est pas unique, ça n'est pas spécifique, et vous vous trompez de sujet. Alors parfois, on parle de stratégie musicale. Il n'y a pas de déterminisme. S'il y a une stratégie, il peut y avoir différentes voies. Donc on va explorer la voie A et la voie B parce qu'on y croit.
On a parlé business. Alors si, il y a un aspect quand même sur le côté aussi intergénérationnel. C'est-à-dire que dans l'universalité de la langue, il y a aussi l'universalité des âges et des générations.
Aujourd'hui, on a la capacité, avec ce monde qui se musicalise, de tenir parfois des langages, je dirais, de nature universelle, si on le souhaite, ou de faire des choses très segmentées. On s'occupe là d'une marque de cosmétiques qui est très globale. On fait nos tests et on se rend compte qu'on arrive à être perçu comme on le veut par les Chinois, par les Français, par les Anglais, par les Brésiliens, qui sont les quatre marchés principaux.
Et alors qu'on a tous des cultures très différentes.
Mais ça, on a. Alors pour le coup, chez Sixième Son, on a cette culture internationale qui est très forte. D'abord, une bonne partie de l'équipe est.
Mais vous dites le même son parle de la même manière.
Oui.
À toutes les cultures.
Mais je vous dis ça parce qu'on a 30 ans d'expérience et qu'on a fait énormément de travaux internationaux. On sait là où il peut y avoir des tensions de perception et là, il n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est si je veux m'intéresser spécifiquement à une tranche de la population ou si je veux m'adresser très spécifiquement à un âge, alors aujourd'hui, je peux le faire parce que j'ai cette capacité de segmentation. C'est un métier. Ne nous trompons pas, nous, on n'est pas des artistes, on est des artisans au service du succès des marques.
Alors, on a parlé business beaucoup, mais il y a d'autres aspects, finalement, de vos créations musicales. C'est tout l'aspect presque pédagogique, j'ai envie de parler. Et vous travaillez notamment sur les sons destinés à alerter les populations, par exemple, en cas de risque d'incendie.
Par exemple, le risque incendie. Voilà.
Incendie. Je crois que vous travaillez avec la Californie, notamment.
Alors exactement. La Californie, malheureusement, est souvent soumise à des feux dévastateurs. Ils avaient mis en place une application pour informer les gens. Et les notifications, en fait, ne disaient pas simplement urgence. Elles disaient urgence comme toutes les autres applications le disaient. Or, on comprend bien que l'urgence de valider un paiement n'est pas exactement de même nature que l'urgence de « il faut évacuer votre maison, le feu arrive ». Donc en fait, on a inventé pour eux un vocabulaire de notification qui va faire comprendre aux habitants de la Californie le niveau soit d'information, soit d'alerte et donc d'urgence qu'il faut avoir. Oui, le son, il est dans nos vies. Vos maisons, votre cafetière, votre frigidaire, votre machine à laver, votre télévision, votre voiture, tout ça, ça fait du son. Changeons l'approche. L'enjeu n'est pas d'avoir du son pour la seule fonction, rien n'est seulement fonctionnel. Dans tout, il y a à la fois de l'émotion, de la fonction et de la marque. Comprenons-le, faisons-le bien, et c'est de cette façon-là qu'on pourra tirer profit. Nous, en tant qu'êtres humains, et les marques en tant qu'acteurs économiques, on pourra tirer profit du pouvoir du son et de ce siècle du son.
Un monde dans lequel il y a finalement plus de sens pour tout, quoi. Maline, plus de son, plus de sens avec le son, plus de sens avec l'empathie, tout ça, ça nous dessine quand même un monde plutôt agréable.
Plus agréable, ça c'est sûr.
Et surtout, je l'ai dit au début parce que c'est très important, vous l'avez dit, plus efficace, en même temps plus efficace, plus performant, c'est quand même deux canaux assez intéressants.
Je pense que c'est important, en tout cas, de le souligner, parce que évidemment, moi, j'ai envie d'avoir plus d'empathie, parce que je pense que c'est la bonne manière de fonctionner ensemble.
C'est parce que ça rend aussi les gens heureux Les gens qui font preuve d'empathie, ça les rend aussi heureux.
Mais il y a une partie de la population qui veut bien entendre ça, mais en fait, le fait de ça a été documenté et prouvé, le lien avec une meilleure performance, ça ouvre un public plus large, parce que c'est un intérêt que, notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi à l'école. On a envie que les enfants réussissent et qu'ils sont meilleurs à l'école, qu'ils sont meilleurs en maths, qu'ils sont meilleurs dans d'autres matières. Et en fait, cette intelligence émotionnelle, ce savoir de l'empathie aide aussi à augmenter la performance.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant ce voyage dans vos deux univers. Maline Ridal, l'empathie, ça s'apprend aux éditions des Presses de la Cité, et puis Michael Boumendil, président de Sixième Son, le siècle du son. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdedaïm, notre globetrotteur, et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Animateur depuis toujours de la rubrique livre, non depuis toujours j'exagère, de la rubrique livre d'Alternative économique, il a tout lu Christian Chavagneux. Jean-Marc Daniel, il a lu beaucoup aussi puisqu'il est notamment le critique attitré de la Société d'économie politique dont il est aussi le président après avoir été, vous êtes toujours professeur émérite.
À l'ESCP, voilà.
Business School. Alors, par quel livre on commence, les amis? On va tout dire à nos téléspectateurs. La semaine dernière, quand vous avez choisi les livres pour cette semaine, Christian a dit « Jean-Marc, ton choix, c'est nul ». Et Jean-Marc a dit à Christian, ton choix, c'est pas de l'économie. Donc, je sais pas. Allez, on commence par votre choix, Christian Chavagneux. Une brève histoire du droit d'auteur par Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert chez Flammarion.
Il faut pas tout dire sur ce qu'on dit.
Mais si, c'est intéressant de faire partager. Mais si, bien sûr que si.
Et puis on va vérifier si on fait. Et on va voir.
Et en gros, est-ce que Christian va vraiment penser que le choix de Jean-Marc était pas bon? Et est-ce que Jean-Marc a changé d'avis sur le choix de Christian?
Donc, une brève histoire du droit d'auteur. Tout est dans le titre. Ouais. C'est un livre. Déjà, il faut se souligner que c'est un livre illustré qui est assez joli.
C'est ce qu'on appellerait un beau livre.
Oui. C'est presque un beau livre parce que c'est juste illustration texte. Les illustrations sont pas toujours à propos. On se demande quelques-unes de ce qu'elle vient de faire là. En tout cas, c'est plaisant à regarder. Et donc, ça nous propose une brève histoire du droit d'auteur. On pourrait commencer au Moyen-Âge, par exemple. Au Moyen-Âge, n'importe quelle œuvre artistique vient de Dieu. Donc, le seul auteur possible, c'est Dieu. Et en plus, on est dans l'oralité. Et l'oralité, ça s'appuie sur le monde qu'il y a autour, les autres histoires. Donc, une histoire n'appartient à personne. Qu'est-ce qui va tout changer? L'imprimerie, bien sûr. À partir du moment où on peut écrire, où on peut reproduire, et ben c'est d'abord les imprimeurs qui vont avoir le privilège du droit d'auteur. Et dès François Ier, il y a la nécessité d'une sorte de dépôt légal. Non pas que le roi veut s'assurer qu'il ait toute sa bibliothèque bien remplie, mais il veut bien sûr contrôler ce qui est imprimé pour voir s'il n'y a pas trop de choses qui sont désagréables pour lui. Donc on va passer de siècle en siècle avec tous les grands débats du droit d'auteur. Donc j'en prends quelques-uns au hasard. Au XVIIIe siècle, c'est tous les grands auteurs qui vont se battre pour avoir le droit d'avoir la reconnaissance. Ce sont eux qui ont le droit d'avoir quelque chose. Donc ça va finir avec une loi sous la Révolution française. Au 19e siècle, on va avoir des batailles d'économistes. Valras qui dit, non mais une œuvre artistique, c'est quelque chose qui doit être laissé au grand public de manière générale. Et Frédéric Bastiat qui dit, non, attendez, c'est de la propriété sur quelque chose, c'est comme le reste de la propriété privée, ça doit être protégé. Donc des batailles d'économistes. Pourquoi des batailles? Parce que les techniques de reproduction se sont développées et il y a une bourgeoisie, une classe moyenne qui se développe, qui achète ces œuvres d'art, qui achète ces bouquins. Donc il y a un gros marché qui va récupérer la main de ce marché. C'est là qu'on commence à avoir des auteurs payés au pourcentage des ventes. 20e siècle, alors là, il se passe plein de choses. On se retrouve avec Millet qui peint l'Angélus, qui vend ça à un architecte, qui revend ça à quelqu'un, qui vend ça aux musées nationaux. Le prix a été multiplié par 400. Pendant ce temps-là, la famille de Millet est dans la misère. Eh oui. Est-ce qu'on a le droit de mettre en place un droit de suite? Donc, c'est les débuts du droit de suite. C'est les débuts de la socialisation aussi. Oui, un artiste, il a le droit à une sécurité sociale un peu particulière. Et il a le droit aussi à être pris en compte. Ses intérêts sont pris en compte par des sociétés d'auteurs. Parce que quand quelqu'un va reproduire votre affiche au fin fond de la France, vous pouvez pas être partout pour savoir, là, etc., etc. On va jusqu'au 21e siècle. Les GAFA qui utilisent ce que publient les journaux, les bouquins, et l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le développement du droit voisin. Bref, on se fait siècle après siècle tous les grands moments de révolution technologique, en fait, qui vont impulser des révolutions dans le droit d'auteur. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des luttes, que ces droits d'auteur ont pu être développés.
Alors Jean-Marc Daniel, qu'avez-vous pensé de cette brève histoire du droit d'auteur ?
Alors sur la forme, effectivement, c'est un bel objet. C'est assez curieux d'ailleurs, puisque le thème, encore une fois, c'est du droit, hein, essentiellement l'évolution des textes juridiques. Et en face, il y a tout un tas d'illustrations. Donc Christian l'a dit, il y a des fois où on se demande ce que ça fait là. Il y a des reproductions de tableaux de Chardin en disant que c'était un personnage très important dans le monde artistique du XVIIIe siècle. Mais enfin bon. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant...
Votre monde.
Oui, exactement. Donc tout de suite, Chardin, Beaumarchais, ouais, c'est voilà, la partie où je vibrais, voilà, c'est la partie voilà, où j'étais voilà, ému. Voilà. Mais après, effectivement, on passe au 19e puis au 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que montrent bien les auteurs, ou l'auteur d'ailleurs, c'est le fait que, au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie évolue, la notion d'art, de production artistique, de production d'œuvre évolue. On a parlé du Moyen-Âge où c'était essentiellement des productions quasiment, Christian l'a dit, orales, il y avait très peu de parchemins. Il commence même à l'époque romaine et où il dit le plagiat, le mot plagiat, c'est purement simplement du vol, mais on a volé un texte, mais on en reste là, quoi. Il n'y a pas de véritable préoccupation parce qu'il n'y a pas de vrais enjeux. Et il explique bien que pendant très longtemps, de toute façon, l'auteur, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. Personne ne sait lire, personne ne sait écrire, il y a quelques individus, donc l'auteur, on sait qui c'est. Donc forcément, il est protégé. Et puis après, on arrive à des périodes où alors il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Oui. Alors la partie sur Beaumarchais, effectivement, est à la fois intéressante, assez connue, c'est lui qui est à l'origine de la Société des auteurs, mais tout ça est assez bien raconté, mais à la fin, ça devient quand même assez confus. Il y a des analyses des textes, des différents textes, des lois de 57, de la loi. Bon. Et il faut véritablement être passionné par la matière juridique pour s'impliquer. Donc, c'est un livre, c'est un beau livre avec un beau passage sur le 18e siècle. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs, sur le 18e siècle?
Ça nous éclaire un peu sur ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle.
Pas vraiment.
Non, ça lève les enjeux, mais ça ne dit pas quelles sont les solutions.
Pas vraiment.
Juste que la bataille n'est pas terminée.
Exactement, oui. Alors, allez, juste une dernière remarque. À un moment donné, il parle de Vigny qui défend la fille de Michel Sedaine pour ses droits d'auteur. Et donc, il dit, Vigny dit, vous rendez compte, quand on est la fille d'un tel écrivain, d'un tel auteur dramatique, on a des droits. Qui c'est qui est encore Michel Sedaine? Quel droit ça crée, effectivement, d'être le descendant d'un certain nombre d'auteurs? Donc, il y a aussi des choses qui meurent d'elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant.
Mais il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du prix. Christian le dit, quand une œuvre vaut 400 fois plus cher.
Oui, ça c'est une œuvre picturale, le théâtre de Michel Sedaine, maintenant...
Aux héritiers de faire valoir leur droit.
Oui, il y a des droits qui meurent de même, en fait, il n'y a pas que la loi. Ce que montre aussi bien le texte aussi, c'est qu'il n'y a pas que la loi, quand même. Aussi...
Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de notre confrère Christophe Barbier, « Peuple de colère ».
Oui,
aux éditions Fayard.
Peuple de colère, donc aux éditions Fayard, peuple au singulier, ouais. Et colère au pluriel. Alors le peuple en question, c'est la France, c'est le peuple français. Ce que dit bien d'ailleurs Christophe Barbier au début, c'est que dans tous les pays, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes, il y a eu des mouvements d'insurrection. Mais en France, il y a une sorte de permanence. C'est-à-dire, il y a des périodes extrêmement tendues en Angleterre, en Allemagne. En France, c'est pratiquement tout le temps. Et alors, il essaie de décrire ça sous forme de colère. Il dit quelles sont les origines de ces colère. Et d'abord, sur la forme, c'est remarquablement bien écrit. C'est-à-dire, c'est dans un français très pur. Il n'y a pas d'impacté. On est concerné, on n'est pas impacté. Ah, oui. Les problèmes sont intérieurs, ils ne sont pas domestiques. Les solutions sont accessibles et pas atteignables. Enfin, c'est dans du français. Et donc là, je trouve ça extrêmement agréable.
Bon, allez,
et ensuite, le deuxième point, c'est qu'alors, il évoque énormément d'événements qu'il essaie de classer. Il y a des révoltes fiscales, il y a des révoltes plus politiques, il y a des révoltes qui sont liés autour des paysans, les Jacques et tout ça. Donc, il fait une sorte de liste. C'est un peu une avalanche. On en reçoit beaucoup sur la tête. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion qu'il en tire. C'est-à-dire, il en tire une conclusion en disant d'abord que ça a assez peu débouché sur la révolte, a assez peu débouché sur des révolutions. Et même quand elle est arrivée à une révolution, comme en 1789 ou en 1848, à la fin, ça se termine par Thermidor, puis Bonaparte en 1789, par Cavaignac, puis de nouveau Bonaparte en 1851. Et donc, il dit, finalement, le révolté est plutôt assez perdant. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que le révolté était violemment réprimé autrefois, et on s'est civilisé maintenant le révolté, même si on a dénoncé la façon dont avait été traité le mouvement des Gilets jaunes. Il dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait sous Charles VI, ou à l'époque, la révolte des Lustres du Cru ou des Pitot. Puis la troisième conclusion, ce qu'il dit, c'est que finalement, la révolte, elle est noyée dans l'État-providence et Netflix. C'est-à-dire que, et dans la société de loisirs. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des révoltes, mais elles seront de plus en plus anodines, de plus en plus. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer cette colère, mais ça veut dire que, finalement, c'est un peu ritualisé, et c'est pas aussi inquiétant que ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire. Alors, c'est un livre très agréable à lire. C'est un livre qui aurait peut-être mérité, à mon avis, d'être un peu plus, aller un peu plus loin dans un certain nombre de détails ou dans un certain nombre de propositions.
Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de ce livre ?
Pour expliquer à Gabriel Attal que les révoltes des agriculteurs, il n'a pas besoin, c'est tout à fait anodin, et qu'il peut regarder sa série Netflix, ce sera intéressant que Christian Barbier lui explique. Déjà, il y a pas mal de trous dans la raquette. Et les révoltes contre l'esclavage du XVIIIe siècle et contre les puissances coloniales au XXe, mais elles ont marché, celles-là, tiens. C'est assez bizarre, mais il n'en parle pas, mais celles-là, elles ont marché. Les révoltes des jeunes contre la conscription sous l'Ancien Régime, et mai 68, quand même, dans les peuples de colère, mai 68, c'est un petit peu quand même, on aurait cru qu'on allait avoir un peu plus de temps pour mai 68. Jean-Marc l'a bien dit, l'auteur commence par nous dire pourquoi est-ce qu'il fait un livre sur les révoltes ? Parce que c'est dans l'ADN national. Ah bon, parce que dans les autres pays, il n'y a pas de révolte. Bah si, 20 pages plus loin, il nous dit oui, dans les autres pays. Mais la France est très particulière parce qu'il y a des révoltes souvent. Dans les autres pays, il n'y a pas de révoltes souvent ? Jean-Marc ? Bah oui, comme vous dites... C'est ça, exactement. C'est une belle phrase, mais il faudrait au moins qu'il nous le démontre.
Mais en 1848, il n'y a pas qu'en France que ça a explosé.
Il n'y a pas qu'en 1848.
Et en 1789,
ça voilà. Donc, est-ce que la continuité, je pense qu'il y en a aussi ailleurs. Donc, ce n'est pas typiquement français. Mais passons. Regardons ce que l'auteur nous dit sur la révolte. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quand il nous raconte certaines révoltes sur l'historique, c'est quand même une superbe plume. On est plongé dans les histoires et puis on suit l'histoire. Mais tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une phrase comme quoi en France, il y a trop de congés payés, les 35 heures, c'est pas bien. Vous demandez ce que ça vient faire là. C'est dommage qu'il y ait ces phrases où l'auteur croit nous tirer des grandes leçons générales alors qu'il se serait contenté de nous dire « Je vais vous raconter, j'ai une belle plume, je vais vous raconter plein de révoltes françaises, à vous d'en tirer les conclusions. » Parce que là, franchement, les révoltes contre les impôts, par exemple, c'est un grand classique. On a l'impression que c'est des révoltes contre le niveau des impôts, mais c'est aussi des révoltes contre l'injustice fiscale. Quand l'auteur nous dit Louis XIV, il faisait payer ses rayons par ses sujets. Ben non, le problème, c'est que tous les sujets ne payaient pas, et c'est les plus privilégiés qui ne les payaient pas. Donc les révoltes, c'est aussi les révoltes contre l'injustice fiscale. Les révoltes contre la gabelle. Mais c'est pas seulement le roi contre les producteurs de sel ou ceux qui vendaient le sel. Entre deux, il y avait des fermiers généraux qui détournaient un peu. C'est de manière étonnante. Jean-Marc n'a pas insisté sur le chapitre qui nous parle de Turgot, qui nous explique
j'étais
que la
qu'il allait en parler.
Que la libéralisation,
je l'attendais,
que la libéralisation du prix du blé a créé de la spéculation d'augmentation des prix et donc des famines et que c'est de là, nous dit l'auteur, que vient que les Français sont anticapitalistes et n'aiment pas les économistes. Déjà, les Français sont anticapitalistes, faudrait le démontrer. C'est pas les deux sondages de la Croix qui sont cités qui permettent de le dire. Et je pense que Jean-Marc a bien apprécié le fait que c'est de là que dans notre conscience collective de bons Français vient du fait que nous n'aimons pas le libre-échange et les économistes.
Vous parlez des trous dans la raquette, Christian, mais en fait, moi, j'avais l'impression qu'il avait pris le problème un peu à l'envers. Au contraire, c'est qu'en fait, il nous racontait des révoltes dont il avait l'impression que ça résonnait un peu avec quelques événements récents qu'on a pu vivre en France.
Pas
genre les gilets jaunes.
Il y a des clins d'œil. Il y a des moments où il dit effectivement la révolte, c'est donc pour les bonnets rouges. Il parle effectivement de la révolte des bonnets rouges 1575. Et puis après, il y a les Ségolène Royal, les portiques et tout ça. Mais non, c'est pas connecté immédiatement à l'actualité.
Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous retrace l'histoire des métropoles.
BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve notre bibliothécaire, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
Bonjour Emmanuel.
Marjorie, journaliste à BFM Business. Marjorie, vous nous emmenez aujourd'hui flâner dans l'histoire...
Des villes.
Avec
Métropolis, de Ben Wilson. C'est un livre qui est sorti en anglais en 2020 et il a tellement cartonné qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là, il vient tout juste de sortir en français. Ben Wilson retrace en fait l'histoire d'une douzaine de villes. Alors ça va de Uruk en Mésopotamie en passant par Paris, Londres, Alexandrie. Et l'auteur en fait nous explique l'impact que ces villes ont eu sur l'humanité tout entière.
Alors Ben Wilson, pour le présenter rapidement, Marjorie.
C'est un historien anglais. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont un très remarqué qui s'appelle What Price Liberty, pour lequel il a obtenu de prestigieux prix.
D'accord. Alors, le premier intérêt de ce livre, eh bien, c'est qu'il nous explique à quel point la ville a été un facteur de progrès, en fait.
Oui, que ce soit Londres, Uruk ou encore New York, chaque ville a sa propre histoire, mais toutes, en fait, ont dû inventer à leur échelle le vivre ensemble. Et c'est justement ce vivre ensemble qui a permis de partager des savoirs. L'auteur montre, par exemple, que la ville est le siège de nombreuses inventions. L'écriture à Uruk, le début de la spéculation boursière dans les cafés à Londres au 19e siècle.
Ah ouais.
Ou encore voilà, le commerce à Bagdad. Et alors Wilson, ce qu'il explique, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que dès qu'une ville prospère, eh bien, c'est parce qu'il y a une interaction entre ce qu'il appelle la cité formelle et la cité informelle et non officielle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la ville laisse une place à une sorte de bazar d'expérimentation qui, par la suite, devient féconde.
D'accord. Et alors, effectivement, ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir la capacité des villes finalement à muter, à se transformer en permanence.
Oui, ça se voit particulièrement avec les épidémies, par exemple, au 19e siècle, que ce soit la peste ou le choléra, eh bien, ça a impacté tout l'urbanisme en Europe. À Paris, par exemple, le baron Haussmann a élargi les rues pour éviter la contamination. Le Corbusier s'est inspiré des sanatoriums pour révolutionner l'habitat. On pourrait aussi parler plus récemment de l'immigration latino-américaine qui a complètement changé l'urbanisme à Los Angeles. Et donc, ce qui est fascinant, en tout cas, c'est de voir justement à quel point eh bien, les villes sont mouvantes.
Oui, et la question c'est à quel point aussi les villes vont fasciner bien sûr, mais vont façonner le monde de demain, puisqu'on sait par exemple que il y a un lien entre l'urbanisation et le ralentissement de la démographie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les villes du futur et que disent les villes sur notre futur?
Déjà, les villes dans le futur, ça va être un enjeu qui va être énorme parce que déjà en 2050, 2/3 de la population mondiale vivra en ville. Donc ce livre, il a une résonance particulière. Ça veut dire aussi qu'il faudra continuer à lutter contre le réchauffement climatique avec une population qui sera encore plus dense et que donc, eh bien, tout est encore à réinventer. Et ce qui est passionnant dans l'ouvrage, c'est qu'on comprend que les changements viendront majoritairement des habitants et de leur dynamique plutôt que des technocrates et d'une décision comme ça imposée.
Merci beaucoup Marjorie. Eh bien, lui aussi, ça y est, il est arrivé en ville. Benaouda Abdennaïm, notre globe-trotteur qui va nous entraîner lui aussi avec sa moisson d'études aux quatre coins de la planète.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda, on commence avec un travail alors sur une donnée cruciale de l'avenir de la planète dans les 50 prochaines années, le capital humain de la Chine.
En 2023, alors c'est un document annuel chinois que sort depuis 15 ans maintenant le Centre de recherche sur le capital humain et l'économie du travail. Et il a été l'objet d'un symposium international en Chine très remarqué le mois dernier en présence d'universitaires nord-américains, asiatiques, chinois bien entendu. Li Haicheng et ses co-auteurs établissent que la main-d'œuvre chinoise est certes davantage instruite depuis ces 15 dernières années.
Ouais.
Mais elle perçoit moins de revenus. Ils ont scruté les données de la population active entre 1985 et 2021. Il y a désormais un rendement marginal, un gain pour parler clairement, décroissant pour chaque année supplémentaire de scolarité. Là où le nombre moyen d'années d'éducation du personnel en zone urbaine chinoise est passé d'un peu plus de 8 ans à près de 12, en zone rurale c'est passé de 5,5 à un peu plus de 9. Et pourtant cela paye, pour ainsi dire, de moins en moins de rester une année de plus à l'école,
ah ouais,
en particulier pour une femme dans une ville. Mais même pour un homme dans une ville, cela se tasse. À la fin des années 2000, chaque année d'études supplémentaires permettait de gagner 8,5% de plus.
Ouais.
Alors qu'en 2020, cette hausse annuelle est descendue sous le seuil des plus 6%. Le professeur Li explique qu'il n'y a là rien d'anormal historiquement, car tel est le lot de toute économie dont la population voit son niveau d'éducation globale progresser avec régularité. Ces courbes qui se resserrent ont aussi pour incidence, pour nous dire involontaire, de réduire les disparités de revenus. De ce fait, les inégalités sont moins importantes en Chine. En parallèle, la croissance du capital humain chinois tend à décélérer, série de statistiques publiques à l'appui. En toute logique, le recul de la part de la jeunesse contribue à affecter ce capital national formé de la somme globale des compétences et aptitudes de la main-d'œuvre. Et l'essor technologique de la Chine, fulgurant, extraordinaire, ne parvient plus vraiment à compenser ce vieillissement de la population.
Direction l'Amérique latine, Benahouda. Que nous apprennent la dollarisation de l'Équateur et de l'ensemble de l'Amérique latine ?
Ce pays sud-américain actuellement est plongé dans l'actualité internationale depuis le début du mois en un état officiel de conflit interne qui oppose l'ensemble de la force publique, armée comprise, aux gangs du narcotrafic. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de l'expérience historique qu'a mené l'Équateur d'arrimage total à la devise américaine et qui pourrait servir, nous dit l'auteur, de modèle à l'Argentine du libertarien Javier Milei. Un universitaire colombien qui a également enseigné au Guatemala a rédigé ce plaidoyer, il s'appelle Daniel Reisbeck. La dollarisation en Équateur constitue une expérience de politique publique la plus importante, selon lui, en Amérique latine des 25 dernières années. Il se prévaut d'un taux de satisfaction des Équatoriens à cet égard de plus de 90%. Pour l'auteur, le citoyen équatorien perçoit des bénéfices palpables du dollar comme monnaie nationale entre guillemets, de manière infiniment supérieure aux désavantages théoriques, je cite toujours, qui, selon lui, viennent surtout d'auteurs nord-américains ou européens qui n'y connaissent pas grand-chose à l'Amérique latine, d'après lui. Alors, le 10 septembre 2000, les Équatoriens, rappelons-le, ont été invités à venir échanger leur sucre, leur monnaie nationale, contre de l'argent américain, au taux de change fixe de 25 000 sucres pour 1 dollar. Renoncer à la souveraineté monétaire a permis de maîtriser les taux d'intérêt, les taux d'inflation, y compris, c'est très intéressant, durant une décennie de politique budgétaire très expansionniste. Et si la croissance économique n'a pas suivi, la faute n'incombe pas à la dollarisation en tant que telle. L'universitaire colombien soutient même que cela a servi de police d'assurance durant la période 2007-2017, où il y a eu une hostilité radicale du gouvernement d'alors, celui de Rafael Correa, au mécanisme de l'économie de marché. Si l'expérience venait à être reproduite efficacement en Argentine, du fait de la taille de son économie, de son influence culturelle, écrit-il, d'autres suivraient pour qu'un jour peut-être le dollar devienne à l'Amérique latine ce que l'euro est à l'Europe, c'est-à-dire le moyen d'échanger, de créer de la prospérité et de la richesse, toujours d'après ce chercheur colombien.
Passionnant. Benahouda, escalade des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie avec l'enjeu du débouché sur la mer.
Oui, l'Éthiopie, deuxième population d'Afrique après le Nigeria, après celle du Nigeria, est enclavée depuis 1993 et sa partition avec l'Érythrée. Et Addis Abeba cherche à présent à tout prix à récupérer un accès territorial maritime au nom de son développement économique, de son développement commercial. Les autorités séparatistes du Somaliland entendent le lui octroyer et la Somalie le lui dénie. Le chercheur Mahmoud Zakaria, pour le centre MIR basé à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, explique ici les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre éthiopien, en octobre dernier, a évoqué un droit naturel vers la mer Rouge. Son économie dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur et pour ses importations, moyennant des frais globaux exorbitants, pratiquement jusqu'à 2 milliards de dollars par an, ce qui absorbe donc une partie très importante des recettes d'exportation tournées pour moitié vers l'Asie. Il s'agit de café, de légumes, de cuir, de métaux, d'habillement, mais aussi, nous dit l'auteur, de nouvelles pièces industrielles, notamment pour l'aéronautique. Et Addis Abeba s'est tourné alors vers la Somalie, qui dispose de plusieurs ports sur le golfe d'Aden, donc vers l'océan Indien. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé le refus d'en céder la jouissance. Alors le gouvernement éthiopien s'est adressé au Somaliland séparatiste. Un accord a été passé très récemment pour 20 km de littoral en location de longue durée, en leasing, et la perspective surtout d'une reconnaissance diplomatique pour un État du Somaliland, entre guillemets. Pour l'auteur, l'Éthiopie entend se positionner ainsi comme seule puissance régionale de la Corne de l'Afrique, et cela depuis au moins 2006, en fait. Elle a compté, y compris sur une aide de la France, nous signale-t-il, pour créer, rétablir une force navale, c'était en 2018. Mais à présent, l'escalade des tensions, selon la formule consacrée avec la Somalie, pourrait avoir de nombreuses répercussions extrêmement dommageables, dont l'ouverture d'opportunités stratégiques pour l'organisation islamiste somalienne Al-Shabaab, qui accuse Addis Abeba de velléité d'inaction, Al-Shabaab qui proclame non aux croisés éthiopiens. L'Égypte vient d'apporter son soutien très marquant à Mogadiscio face aux revendications portuaires de l'Éthiopie. Le bord du gouffre est proche, d'après Mahmoud Zakaria.
La sonnette d'alarme est donc tirée. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors, un livre dont le titre est « Spicilège, Beaux-Arts de l'art Faber ». Donc, vous n'avez rien compris, « Spicilège », c'est un recueil. Ouais. L'art Faber, c'est toutes les représentations artistiques du monde du travail et du monde économique en général. D'accord. C'est un livre, vraiment un très beau livre, un livre superbe, couverture de velours, des magnifiques reproductions essentiellement de tableaux, un peu de sculpture, mais essentiellement de tableaux. Tout ça mis en contexte, et donc vous avez un livre magnifique qui est une entrée pédagogique, une autre façon de lire l'histoire du capitalisme français et étranger, une autre façon de lire l'histoire économique, c'est absolument magnifique. Et pour 35 euros, pour un livre très épais, je trouve qu'en plus, l'éditeur Actes Sud a fait un très bon travail.
Eh ben, merveilleux. Jean-Marc Daniel, votre choix.
Alors, moi, j'ai choisi le dernier livre de Marc Fiorentino avec Gauthier Maes aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle « Le guide pour sauver votre retraite » et tout est dans le titre. Donc, le livre rappelle l'état des lieux en termes de retraite, y compris la complexité du système malgré les simplifications des dernières réformes, et puis donne quelques conseils. Et à la fin, il il répond à des questions qui ont été posées, soi-disant, aux deux auteurs. Bon, le conseil le plus simple, il y a deux conseils qui sont assez évidents, c'est essayer d'être propriétaire de votre appartement quand vous atteignez l'âge de départ à la retraite, comme ça vos frais de logement seront couverts. Et la deuxième chose, prenez un PER, ça peut pas faire de mal pour compléter les retraites des systèmes qui sont les systèmes publics actuels en vigueur. Alors c'est très pratique, c'est...
Ouais, c'est surtout ça moi que j'ai trouvé.
Oui, c'est très pratique.
En fait, quand on n'y commet rien...
Voilà, absolument.
C'est quand même extrêmement bien fait.
Et il explique régime par régime, quels sont les enjeux, quelles sont effectivement les possibilités offertes. Non, c'est pratique, intéressant et bien écrit.
Voilà, notre ami Marc Fiorentino que vous retrouvez dans C'est votre argent. Et alors qu'il fait feu de tout bois puisqu'il ressort aussi, je crois, sa finance pour les nuls.
Absolument.
Voilà, donc écoutez, si vous êtes fan de Marc Fiorentino, bah, vous manquerez pas de livres. Moi, j'ai choisi de vous parler du dernier livre d'Alessandro Giraudo. On a déjà parlé de ses livres ici parce qu'il a fait plein de livres sur l'histoire des matières premières. Alors lui aussi, il raconte quand même extrêmement bien toutes ses histoires. C'est un des nombreux livres préfacés par Jean-Marc Daniel qui sort cette année. Vous faites combien de préfaces par an, Jean-Marc Daniel?
J'en fais 4.
Vous êtes très sollicité quand même.
Oui, je suis très sollicité.
Vous êtes bankable en fait.
Je ne sais pas. En tout cas, je suis très sollicité et je ne donne pas systématiquement une réponse oui. Donc si je l'ai fait dans ce cas-là, c'est parce que je trouve que le texte est intéressant et l'auteur est particulièrement brillant.
Mais vraiment, c'est une mine d'histoire géopolitique, économique, de références mythologiques, de curiosités. Ça se lit vraiment extrêmement bien. Je vous lis juste un petit passage. Cléopâtre maquillait ses yeux avec le même antimoine qui a permis de soigner le typhus de Louis XIV, mais qui a eu pour conséquence de le rendre chauve. Il est aujourd'hui utilisé comme ignifuge dans les sièges des avions. Il raconte, il vous fait toute une histoire sur c'est plein de fresques, c'est absolument passionnant. Géopolitique, économie, histoire et anecdotes par Alessandro Giraudo, VA Édition. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.